Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. D'ailleurs, avant d'être un podcast, c'est surtout des rencontres. Alors merci à mes invités de répondre si positivement à mes invitations. Et merci à vous pour vos retours précieux qui me motivent à continuer pour vous en faire découvrir toujours plus sur les chiens guides. Pour revenir à l'épisode du jour, je vous présente Timothée qui est guidé par Japlou de l'école des chiens guides de l'Ouest. Malvoyant de naissance, quelques accidents le rendent complètement aveugle à ses 19 ans. Très jeune, il a exprimé le souhait d'avoir un chien guide d'aveugle. Mais comment accueillir un chien guide à l'orée de sa majorité? Et comment poursuivre tous ses projets? Devenu athlète en e-sport en athlétisme, Timothée revient sur ses premiers pas auprès de Baltic, son premier chien guide d'aveugle qu'il a accompagné dès le lycée. Il nous raconte aussi comment son chien guide actuel Japlou a pris le relais et ses prochains projets avec notamment les JO Paralympiques de Tokyo cet été 2021. Alors maintenant, place à l'épisode. Bonjour Timothée.
Bonjour Estelle.
Merci à toi de prendre du temps pour échanger avec moi aujourd'hui sur les chiens guides qui ne sont pas le sujet central de ta vie mais qui en font une grande partie. Est-ce que justement tu peux, pour commencer, te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais au quotidien et tes multiples activités, tes multiples talents?
Alors, je suis Timothée Adolphe, j'ai 31 ans, je suis athlète paralympique, sprinter du 100 au 400 mètres. Je fais également de la musique depuis que je suis ado, on va dire, ça va faire 18 ans.
Ouais.
Je suis entrepreneur et je prépare un one-man show également, donc je suis plus sur plusieurs domaines, on va dire.
Que c'est pour ça que je parlais de multiples facettes, hein. Et c'est vrai que on te connaît peut-être pour le côté paralympique, mais il y a aussi tout le reste qui t'occupe. Et quand on s'est eu aussi la semaine dernière, parce qu'il me semble que malgré la pandémie et les restrictions, vu ton activité professionnelle, tu continues à voyager et à concourir du coup un peu par monts et par vaux ces temps-ci. Donc voilà, tu es assez occupé au final par un objectif, disons-le tout de suite, qui se passe plutôt cet été. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Tout à fait, quand on s'est eu, j'étais en compétition en Italie du côté de Jesolo, car les athlètes de haut niveau ont encore la possibilité sur certains meetings et sur certaines compétitions de pouvoir concourir. C'est essentiellement les athlètes qui sont qu'on appelle listés, c'est-à-dire qui sont sur liste ministérielle en préparation des grandes échéances. Donc ça peut être des championnats d'Europe, du monde ou là en l'occurrence les Jeux paralympiques de Tokyo qui vraisemblablement vont être maintenus. Cet été, on l'espère, ça fait 5 ans qu'on les prépare, et donc c'est vrai qu'on a un petit peu hâte d'en découdre.
Est-ce que, pour nous qui t'écoutons, avant de parler des chiens guides, je voulais revenir un petit peu sur ton sport, ton activité, étant donné du coup le fait même que tu es aveugle, comment tu le pratiques? Est-ce que tu peux nous dire en deux mots? Alors moi j'en ai parlé à mon tout petit niveau, j'ai fait un article sur comment courir un canicross à 3, puisque ça m'est déjà arrivé d'accompagner un déficient visuel et son chien guide qui du coup ne le guide pas dans le cas d'un canicross, mais du coup à un haut niveau comme le tien, il y a aussi un guide, tu n'es pas tout seul sur la piste, il me semble.
Tout à fait, il y a aussi un guide en athlète, sauf que là, c'est plus le chien. Et le chien doit passer le relais, on va dire, et c'est bien, bel et bien un athlète valide. En l'occurrence, aujourd'hui, compte tenu des performances que je fais, je dois faire appel à des athlètes de haut niveau valides qui sont eux-mêmes, en fait, aux portes des équipes de France, du relais 4x400 ou 4x100. Du coup, ça nécessite, pour le sprint, une coordination et une synchronisation absolument parfaite. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit avoir exactement la même foulée et le même mouvement de bras sur des tempos extrêmement rapides, puisque sur 100 mètres, on monte quasiment à 35-36 km/h, au-delà de la synchronisation. Tout comme avec le chien, il doit y avoir une complicité, une confiance aveugle, sans faire de mauvais jeu de mots.
On peut dire que vous faites, alors ça me fait rebondir par rapport avec Fabienne qui elle est danseuse les yeux fermés, on peut dire que vous faites une chorégraphie du coup avec ton guide sur la piste?
Tout à fait, on fait souvent justement le parallèle avec la danse ou avec la natation synchronisée où les danseuses sont sous l'eau et elles ne se voient pas non plus. Il y a ce côté-là effectivement qui est très similaire.
Bon bah c'est très rigolo, j'avais pas encore fait le lien, mais tu vois si vous le faites même dans le monde professionnel, c'est que c'est vraiment ressemblant. À côté de tout ça, tu nous as parlé d'un chien guide. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi, jeune ou moins jeune, tu es arrivé à te rapprocher, alors j'imagine d'une école de chien guide, pour être accompagné par un premier chien? C'était il y a bien longtemps, il me semble.
Exactement. En fait, moi déjà, j'ai toujours eu un contact avec les animaux, les chiens, les chats, j'ai grandi avec, j'ai toujours eu cet amour pour les animaux. Très jeune, en fait, j'ai eu conscience que je voulais être accompagné d'un chien guide.
Pour revenir sur ton histoire, ta déficience visuelle est arrivée petit à petit par différents coups du sort, on va dire.
Tout à fait. Alors, pour essayer de la résumer en quelques instants, je suis né avec une malvoyance, c'est-à-dire je voyais plutôt flou de l'œil gauche et relativement bien de l'œil droit. À 3 ans, je suis opéré de la cataracte. Ça marche très moyennement. J'ai les yeux fragiles pendant quelques temps, sauf qu'une dizaine de jours après, faut croire que je devais être destiné à être sprinter, mais je me faufile dans une cage d'escalier en échappant à la vigilance de la personne chez qui j'étais en garde. Et je me mets à courir dans cette cage d'escalier. Je cours, et en bas, en fait, il y a une porte vitrée. Et je prends, on va dire, le premier vrai chaos de ma vie. Bah, ça se solde par un décollement de rétine de l'œil droit, puisque je me prends, en fait, la porte vitrée du bas de l'immeuble de plein fouet. Le choc est assez violent, et du coup, je perds mon meilleur œil à ce moment-là, donc principal de ma capacité visuelle. Et je me retrouve avec un œil gauche qui voit à peine un 20e, en gros, à 3 ans. Là-dessus, je vais subir quelques opérations. Et à 6 ans, en fait, je vais prendre un coup de pied dans l'œil gauche. Là, j'ai pas de perte de vision immédiate. J'ai un ulcère de la cornée. Et donc, j'ai un traitement qui va essayer de ralentir le processus de l'ulcère de la cornée qui ne va pas s'opérer à ce moment-là, dans les années 90. L'ulcère de la cornée, en fait, ça fait qu'il y a plein de petits vaisseaux sanguins qui s'agglutinent dans la cornée. Plus il y a de vaisseaux sanguins, plus la cornée est opaque. Et plus la cornée est opaque, moins il y a de lumière qui passe. Et donc, comme vous en doutez, moins il y a de lumière qui passe, moins vous voyez.
Sur un œil où tu voyais déjà pas très bien du coup côté gauche.
Tout à fait. Bah, j'exploitais très bien le 20e que j'avais, sauf que à partir de mes 15-16 ans, ce petit potentiel visuel que j'avais se dégrade assez brutalement jusqu'à mes 17 ans. À 17 ans, j'ai plus qu'une perception lumineuse qui est souvent faussée par des, je vais pas dire des hallucinations, mais des illusions un peu d'optique qui sont probablement provoquées par la cornée ou d'autres trucs. Mais en tout cas, des fois, j'avais l'impression de voir de la lumière alors que j'en avais pas forcément. C'est le game over à mes 19 ans, vu que, comme je te disais tout à l'heure, je fais de la musique en parallèle de toutes mes activités. Je descends de scène après une presta et il y a un très très léger mouvement de foule, mais suffisamment pour que je prenne un coup sur l'œil gauche. Alors absolument pas fort, pas volontaire, très très faible, mais l'œil est tellement fragilisé en fait que c'est suffisant pour faire un décollement de rétine de l'œil gauche. Puis bah là, c'est le début d'autre chose, on va dire.
Donc là, l'œil gauche, tu comptes plus dessus. L'œil droit, c'était déjà le cas depuis ton accident petit.
Depuis mes 3 ans.
Voilà, donc comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là?
Bon, en fait, ce qui a été très compliqué, c'est qu'au début, les médecins me disaient c'est de la tension, parce que j'avais un glaucome congénital à l'œil gauche, et j'avais beau leur dire non, je connais la douleur de la tension, et ce n'est pas ça, et j'en suis sûr. On me disait si, c'est de la tension et tout ça, et en fait, ça a duré pendant plus d'un mois. C'est en revoyant une ophtalmo qui m'avait suivi un peu plus jeune, qui me dit, écoute, j'ai pas le matos qu'il faut, mais j'ai l'impression de voir du sang au fond de l'œil, donc je te fais une recommandation pour que tu puisses être vu à l'Hôtel Dieu. Je suis vu à l'Hôtel Dieu en urgence. Effectivement, en fait, j'avais une hémorragie dans l'œil.
D'accord.
Et c'est des choses que d'autres médecins n'avaient pas voulu voir. C'était l'été, donc ils ne peuvent pas opérer les yeux compte tenu des chaleurs, en fait. Et donc, j'ai dû être sous médoc et des trucs qui te shootent bien pas mal pour pouvoir avoir de douleurs tout l'été. Donc, c'est vrai que ça a été quelques mois assez compliqués. L'opération, donc c'est une énucléation que j'ai eue en septembre 2009. C'est la dernière opération que j'ai eue. Et en fait, limite, c'était un soulagement pour moi de ne plus voir du tout, puisque de toute façon, la perception lumineuse que j'avais depuis mes 17 ans, elle était faussée. Le gros travail d'acceptation, il avait déjà été fait, en fait, entre mes 15 et mes 17 ans, quand j'ai perdu, en fait, le petit 20e que j'avais.
Ok. Aujourd'hui, tu es dans le noir depuis tes 19 ans, et du coup, tu dis finalement, c'est même mieux pour toi, au moins, c'est total, quoi.
C'est ça.
Et donc, dans tout ça, on comprend qu'il y a eu plusieurs rebondissements. Tu me disais que tu aimais toujours les animaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de toi? Est-ce que tu connaissais les chiens guides? Il me semble que tu étais un peu dans une autre partie de la France, puisque aujourd'hui, tu es en région parisienne, mais il me semble qu'à cette époque-là, tu étais plutôt à l'ouest.
Alors, en fait, j'ai grandi en région parisienne, et très jeune, j'ai voulu avoir un chien guide. J'ai été suivi par le S3 AIS dès, je dirais, mes 9-10 ans. J'étais à l'école primaire. J'ai commencé tout ce qui prière et les rééducations, la locomotion et tout ça. Et en fait, très tôt, j'ai parlé à mon instructrice en locomotion que de toute façon, j'aurais un chien guide parce que j'acceptais absolument pas la canne blanche, je trouvais ça moche.
D'accord.
Je m'en foutais, en fait. J'estimais à ce moment-là, en fait, le 20e que j'avais au niveau visuel me permettait de faire plein de choses. Je jouais au basket, je faisais du vélo tout seul, je faisais du roller, je faisais de l'athlète déjà en courant en valide. Et donc, je voyais absolument pas l'utilité d'une canne blanche. Je l'acceptais pas déjà moi, et j'acceptais encore moins le regard des autres par rapport à cette canne blanche. Et en fait, ce qui m'a fait accepter la canne blanche, c'est quand on m'a dit, ben écoute mon petit coco, si tu veux un chien guide, il va falloir que tu sois autonome avec une canne blanche. Et de ce jour-là, j'ai dit ok.
Oui, parce que ça, on te l'a dit
par le S3AIS.
Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que le S3AIS? Je ne connais pas du tout.
Le S3AIS, maintenant, ça s'appelle le SIAM 78, mais ça s'appelait le S3AIS précédemment, et ça voulait dire service d'acquisition et d'aide à l'autonomie et l'intégration scolaire.
Ok, dans le 78 du coup.
Tout à fait. Bah, cette phrase, ça a été un vrai déclic pour moi. Je me suis dit ok. Faut la canne blanche pour avoir un chien guide, bah passe-moi ta canne blanche, on s'y met. Ça a été vraiment un déclic à la seconde, quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, s'il faut passer par là pour avoir un chien, je vais passer par là.
Tu étais jeune à cet âge-là ?
J'avais quoi, 10, 11 ans ?
D'accord, oui, tu étais assez jeune et tu savais déjà que tu voulais un chien guide. Tu connaissais l'existence des chiens et...
Ouais, j'avais vu des documentaires, j'en avais déjà parlé avec mes parents. Mmh. Voilà, c'était quelque chose d'assez clair dans ma tête que tôt ou tard, j'aurais un chien guide. Après, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que les écoles de chien guide françaises ne remettent pas aux mineurs.
Oui, en dehors de la fondation Frédéric Gaillen qui remet des mineurs,
voilà.
C'est pas la pratique en tout cas des écoles de chien guide françaises.
Tout à fait. C'est quand je suis passé à Angers pour mes années lycée que on m'a dit qu'il y avait une école de chien guide et tout ça, que j'étais pas mal autonome, que j'ai commencé à en reparler un petit peu sérieusement, en me disant peut-être que même si je suis pas un majeur, je peux essayer de les contacter, savoir un peu plus, avoir un contact un petit peu plus concret avec le chien guide. Mmh. On m'a très clairement dit à 17 ans que je pouvais faire ma demande.
Ouais.
Et que je verrais bien. Et ma demande en fait a été acceptée quand j'avais 17 ans et demi.
Ok.
Tout simplement parce que les tests étaient concluant. Le seul frein qu'aurait pu être, c'était mon âge. Et donc, c'est pour ça que le directeur en 2007 mm-hmm. a demandé à me voir en entretien après les examens et après l'accord du dossier mm-hmm. pour discuter avec moi de l'engagement et de ce qu'impliquait avoir un chien guide. Parce que forcément, quand on est jeune, on se rend pas forcément compte de toutes les responsabilités qu'un chien guide va impliquer.
Oui.
Donc, l'entretien s'est super bien passé et on me dit ça devrait être assez rapide. Et en fait, deux jours plus tard, j'ai l'éducateur de l'école d'Angers qui m'appelle et qui me dit qu'il a un chien à me présenter. Quand est-ce qu'il peut me voir?
Ok, direct.
Il me présente Baltic le 21 juin 2007.
Alors, il te présente Baltic, c'est un Golden Retriever, c'est ça?
C'est ça, un grand Golden tout blanc. Pour la petite anecdote, j'avais eu Balzac, son frère, en test lors des deux jours d'examen.
Donc là, tu te retrouves avec Baltic, qui t'est confié du coup en 2007.
C'est ça.
À peine 18 ans, en fait.
C'est ça, j'avais pas encore mes 18 ans, parce que c'était en juin 2007, et moi, je suis de fin d'année, je suis du 29 décembre. On me le présente en juin, la remise a lieu fin octobre.
Toi, tu es étudiant à cette époque-là à Angers.
Je suis un lycéen, je chamboule un peu tout parce que j'étais en internat, donc il a fallu faire accepter ça en internat. Ils n'avaient jamais eu le cas, donc ça pose un petit peu question. Au lycée, c'était pareil. Donc au début, d'ailleurs, le lycée ne voulait pas, et puis finalement, c'est devenu la mascotte du lycée. Et puis de toute façon, en vrai, ils voulaient pas, mais d'un autre côté, c'est la loi, ils ont pas le droit de le refuser. Donc en fait, je leur ai pas laissé le choix.
Ouais, l'inconnu leur a fait peur et finalement tu as pu aller en classe au lycée avec. Et à l'internat aussi du coup, comment ça s'est passé?
Oui, à l'internat, il était dans ma chambre, c'était à moi de m'en occuper, j'en avais la responsabilité et voilà, tout s'est très bien passé.
Bon, alors les débuts de tes pas avec les chiens guides se sont faits avec Baltic.
Tout à fait.
Vous avez fait, il me semble, un bon bout de chemin quand même ensemble, hein, parce que tu n'as pas été lycéen pendant des années quand même.
Exactement, Baltic en fait, il a été mon chien guide jusqu'en décembre 2015.
D'accord.
Bah forcément de mes 17 ans à mes 25-26 ans, c'est une période de ta vie où tu te construis en tant qu'adulte, où il y a énormément de changements qui interviennent dans ta vie. Donc c'est vrai qu'il a été d'une adaptation un peu incroyable parce que il y a eu beaucoup de changements que ce soit de lieu de vie ou de mode de vie aussi. Mm-hmm. Donc voilà, il a su s'adapter à chaque fois avec brio, on va dire.
Justement, vous avez donc fini le lycée ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé après de ton côté?
Alors après, j'ai été dans une formation de développeur d'application du côté de Villejuif,
au sud de Paris.
Voilà, parce qu'à la base, je voulais être ingénieur du son et malheureusement, en France, les études d'ingé son ne sont pas accessibles aux déficients visuels.
D'accord.
Ce qui est assez paradoxal.
Oui, je vois.
Mais je m'étais un peu redirigé vers l'informatique. C'était un peu un choix par défaut, on va dire. Mm-hmm. Parce que c'était un projet, moi, le truc d'ingé son qui était assez inscrit dans ma tête depuis plusieurs années. En fait, quand on m'a expliqué que ça serait pas possible, mais il était déjà un petit peu tard, on va dire, et que fallait trouver quelque chose à faire après le bac. Sauf que j'ai rapidement compris que le développement informatique, c'était intéressant, enfin que moi, ça m'intéressait, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire au niveau professionnel. Mm-hmm. J'ai un peu décroché. Ça a coïncidé au moment en plus où je reprenais vraiment l'athlète très sérieusement et que j'ai eu des résultats assez rapidement aussi. J'allais à la base embrayer plutôt sur un BTS en communication.
Ouais.
À ce moment-là, j'ai tout plaqué le développement informatique pour me consacrer à l'athlète et le BTS en communication. En fait, j'avais été accepté dans une école de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est ce que j'étais présélectionné pour les Jeux de Londres.
Ouais.
Et donc j'ai eu une discussion avec mes parents où on m'a très clairement dit parce que c'était un BTS en alternance que je voulais faire, on m'a dit ça va peut-être faire un peu beaucoup entre les cours, l'entreprise, les entraînements pour les Jeux. On te connaît un petit peu et on sait très bien que si ça pêche, tu vas mettre tout sur le sport. Et j'étais honnête, je leur ai dit oui. Et en fait, on m'a dit, prends une année pour toi, prépare les Jeux, prends une année et tu reprendras les études après. Ça s'est passé comme ça. J'avais pris un appartement et j'ai préparé les Jeux, sauf que ça faisait, entre guillemets, peu de temps que j'avais repris. Mm-hmm. Forcément, pour une préparation pour les Jeux, il faut un volume d'entraînement assez conséquent.
J'imagine.
Et mon corps était pas encore prêt à assumer cette charge d'entraînement. Du coup, j'étais assez régulièrement blessé. Mm. J'ai fait mes minima internationaux, mais je n'ai pas été retenu pour les Jeux. Ça a été un gros échec. J'ai eu une seconde chance, en fait, parce que les championnats du monde 2013 étaient en France.
D'accord.
Mes parents ont vu que je m'étais donné les moyens d'y arriver. Et donc, on m'a dit, les championnats du monde, c'est en France l'année prochaine. On te laisse une seconde chance. Par contre, si ça marche pas, il faudra retourner à l'école.
Ok.
Et donc, j'ai préparé ces championnats du monde. J'ai eu ma première médaille internationale.
Là, c'était parti pour plusieurs années. Comment Baltic t'a accompagné pendant toutes ces années puisqu'il était à tes côtés? Comment ça se passe quand tu t'es remis à l'entraînement? Est-ce que Baltic avait un rôle à jouer ou c'était au contraire ton guide humain, entre guillemets, qui reprenait le relais, comme tu nous disais?
Baltic, il venait avec moi au stade. Je l'attachais. Puis lui, il dormait pendant que je faisais ma séance. Donc, c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a un passage de témoin entre le chien et le guide, l'athlète. Chacun a son rôle. Je dis souvent qu'il y a les guides de la piste et là, il y a les guides de la street. Mmh. Et le guide de la street, ça a été Baltic. Aujourd'hui, c'est Japlou et voilà.
Oui, parce que Baltic, du coup, t'as quand même suivi dans tes aventures. Tu disais que tu as été remis en piste, c'est le cas de le dire, par rapport à tous ces entraînements-là. Tu as du coup dû te déplacer pas mal aussi, j'imagine, pour concourir à droite à gauche.
Tout à fait.
Baltic, il t'a suivi à chaque fois. Comment ça s'est passé par rapport à ses déplacements? Quelle place il avait dans ta vie pendant toutes ces années de guidage avec toi?
Baltic ou Japlou, d'ailleurs, m'accompagne systématiquement à l'entraînement, sauf aujourd'hui sur des séances de départ en starting block avec Japlou. Des fois, j'évite de l'emmener ou je l'essaye de le mettre dans un coin où il me voit pas, parce que dès qu'il me voit en position de départ, il se met à aboyer.
Donc, il t'encourage, en fait.
C'est compliqué à gérer, mais... On s'adapte. Sinon, il m'accompagne partout. Après, sur les compétitions, selon l'organisation et selon où c'est, il m'accompagne. Après, généralement, quand c'est à l'étranger, je le laisse en garde. Souvent, on sait pas trop forcément les lois des chiens guides à l'étranger. C'est pas forcément les mêmes qu'en France. Mm. Des fois, il y a des quarantaines. Des fois, enfin, ça peut rapidement devenir compliqué. Il y a un moment, en fait, moi, j'estime qu'il faut pas être égoïste. Faut aussi penser au chien et au bien-être du chien. Si c'est pour qu'il soit dans une chambre d'hôtel ou attaché sur le banc d'une piste toute la journée, c'est peu intéressant pour lui. Mmh. Et c'est pour ça que souvent, lors des grandes compétitions internationales où mes parents, des fois, ils me suivaient, Moi, je garde contact avec les familles d'accueil et ça permet aussi aux familles d'accueil de revoir le chien, de voir l'évolution du chien et de repasser du temps avec lui. Donc, moi, je sais qu'il est dans un environnement qu'il connaît, avec des gens qu'il connaît, qu'il est bien dans ces conditions-là. Donc, moi, déjà, je suis serein par rapport à ça. Les familles, elles sont contentes de le revoir. Lui, je pense qu'il est gâté pendant cette période-là. Donc, en fait, je pense que cette solution, c'est la meilleure parce que tout le monde y trouve son compte. Et ça permet aussi de, pour les familles, de garder un lien autre. Et même si c'est pas hyper régulier, les familles, en tout cas, étaient contentes.
Donc, Baltic a eu l'occasion, du coup, de faire des pauses et des retours dans sa famille d'accueil, qui, à mon avis, était hyper ravie de l'avoir à nouveau. Comment ça s'est poursuivi? Du coup, tu nous disais que tu as été à nouveau à l'entraînement. Tu avais une chance, du coup, de prouver un peu que c'était pour toi, sinon tu retournais à l'école. Est-ce que ça s'est conclu dans le bon sens?
Vu que j'ai fait ma première médaille internationale, c'était sur 400 mètres, un peu en plus à la surprise générale, ça a été validé. Et donc, je voulais aussi un peu honorer le deal que j'avais fait avec mes parents. Même si j'avais fait cette médaille, j'ai voulu faire une formation.
D'accord.
J'étais plus dans cette idée de communication ou quoi que ce soit. Je voudrais vraiment retrouver un truc avec l'humain. Et ça fait un petit peu bateau par rapport... c'est souvent le cas pour les déficients visuels. Je suis parti sur quelque chose du massage bien-être. Mais en fait, moi, si je l'ai fait, non, c'était plus dans le sens où par rapport au sport, il peut y avoir un intérêt en termes de prévention sur de l'automassage, sur masser ne serait-ce que ses partenaires d'entraînement à certains moments, même si on n'est pas kiné, hein, c'était pas du tout dans une optique de kiné, mais juste pour de la récupération ou des petits trucs comme ça. Mais il y avait aussi ce qui m'intéressait énormément, c'était tout l'aspect aromathérapie qui permet de faire pas mal de choses en prévention, étant donné qu'en tant que sportif de haut niveau, on n'a pas le droit à tous les médicaments qu'on veut. Et il y a une liste interminable à respecter. Tu vois, juste un médicament comme l'Advil qui peut pas être totalement inoffensif, c'est considéré comme un produit dopant.
D'accord.
Donc je me suis dit que l'aromathérapie pouvait être assez utile sur pas mal d'aspects.
Et est-ce que le massage, tu en as fait bénéficier Baltic ou pas du tout, du coup?
Je me suis renseigné après par la suite pour du massage canin, ce qui existe et ce qui pouvait être intéressant aussi. Baltic, en plus, était extrêmement réceptif au massage canin. J'ai eu la chance, en fait, pendant la remise de Japlou, de rencontrer quelqu'un qui faisait du massage canin et qui m'a appris. Alors, Japlou est un petit peu réceptif, mais il est beaucoup moins que l'était Baltic. Bien qu'il a un peu changé de tempérament, Japlou, il faudrait que je réessaye un petit peu sur lui.
Peut-être qu'avec le temps, ouais, il serait peut-être plus réceptif avec l'âge.
Il s'est beaucoup calmé, Japlou. Avant, il était un petit peu foufou. En même temps, Japlou me l'a remis, il avait 16 mois, donc il était encore un petit peu immature.
Justement, comment on est passé de Baltic à Japlou? Baltic, du coup, t'as guidé quand même 7-8 ans. C'était, du coup, l'heure de la retraite pour lui, c'est ça?
C'est ça. Bon, en fait, Baltic, j'ai rapidement vu, moi, qu'il fallait le mettre à la retraite.
Ok.
Parce que c'était un chien qui était très volontaire, qui aimait guider, qui a beaucoup travaillé, parce que je me suis beaucoup déplacé. Il avait pas mal de kilomètres au compteur. Du coup, c'est vrai que il a fatigué assez rapidement, Baltic. Dès ses 8 ans, je sentais que le rythme de marche commençait à ralentir. Donc, il y a un moment, ben, on s'adapte à son chien parce que on a envie que ça dure. Et à un moment, en fait, on voit très rapidement la fatigue qui arrive, des erreurs de guidage qui sont provoquées par la fatigue. Et je commence à m'apercevoir de ça avec Baltic. Il y a un moment, en fait, faut respecter aussi le chien. Enfin, faut savoir dire stop, même si ça déchire le cœur. Et donc voilà, j'ai décidé de mettre Baltic à la retraite et de faire le passage de témoin avec Japlou. Moi, j'ai voulu que ça se passe comme ça. Je voulais garder Baltic.
Tu as pu le garder, du coup?
Alors, je l'ai gardé. Après, vu que j'étais interne à l'INSEP, donc l'Institut National du Sport, de l'Expertise de la Performance, avoir les deux en même temps, c'était très compliqué. Donc, c'est mes parents qui attendaient que ça, d'avoir Baltic. Et mes parents qui voulaient faire maison de retraite pour chien guide.
C'est ça, ils sont devenus la famille de retraite. On en a parlé dans le dernier épisode avec la famille de retraite de Finlay. C'est un statut, hein, ça fait partie de la vie du chien guide et des bénévoles qui sont autour de toute cette chaîne de générosité. Donc tes parents sont devenus la famille de retraite de Baltic.
Voilà, c'est un bon compromis parce que moi je pouvais le voir très régulièrement aussi.
Et oui.
Et puis il y avait Japlou qui était arrivé dans l'équation, donc ça lui a amené un compagnon de jeu. C'était plutôt sympa. Moi, j'avais aussi dans cette idée, c'est très personnel, hein, mais je voulais que Baltic puisse voir ce qu'était la suite, puis entre guillemets voir son successeur.
Ouais.
Mais je savais, moi, justement, que si j'attendais la mort de Baltic et qu'il y avait un temps mort, entre guillemets, je savais pas dans quel état d'esprit j'allais être. Et j'avais ce problème où je voulais pas retourner à la canne blanche, mmh. de un, et de deux, je voulais que, qu'il y ait ce lien aussi entre Baltique et Japlou. Japlou, j'avais demandé aussi que ça soit pas un golden pur.
D'accord.
Justement pour ne pas tomber dans la comparaison bête mmh. qu'on peut faire rapidement.
Donc t'as demandé justement une autre race qu'un golden retriever?
À la base, j'avais demandé un berger allemand pur, et en fait, on m'a dit qu'il y avait un croisement, on m'a présenté, il y a eu un feeling assez rapidement. Et...
Alors, c'est curieux ça, parce que je crois que j'avais encore jamais entendu parler, bon, à part les magnifiques photos que j'ai déjà vues depuis longtemps de Japlou. Japlou, c'est donc un chien qui vient de l'école de chien guide de l'Ouest, de Angers aussi.
Ouais.
Et c'est un croisement, tu nous dis, entre un golden retriever et un berger allemand.
Tout à fait.
C'est pour ça que son, alors on mettra des photos hein, sur le blog, ça donne une stature assez grande et en même temps, enfin moi j'ai l'impression un museau un peu de nounours quoi, parce que c'est il est costaud quand même, mais au final il est tout doux et il a pas ses grandes oreilles de berger allemand, il les a pas gardées du berger allemand en tout cas.
Tout à fait, en fait il a un bon gabarit, il fait 38 kilos, Japlou. Il a le poil et les couleurs du berger, mais il a beaucoup la tête et les oreilles effectivement du golden.
Ouais, c'est impressionnant à voir et du coup ça donne vraiment un croisement assez original. Donc toi, quand on te l'a présenté, alors à la place d'un berger allemand, t'as bien dû sentir et voir que c'était pas la même chose, j'imagine.
Effectivement, aux oreilles, je me suis dit merde, où est passé le berger? On m'avait dit tout de suite que c'était un croisement et tout ça et en plus j'avais croisé Japlou. Mm-hmm. Il avait 10 mois. Il rentrait tout juste en éducation pure chien guide mm-hmm. en avril 2015, si je te dis pas de bêtises. C'était lors des 40 ans de l'école d'Angers. Je l'avais croisé à ce moment-là et il y avait déjà eu un bon feeling. Et en fait, au mois de juillet, quand parce que j'avais déjà fait mon dossier de renouvellement, parce que je savais que Baltic allait être à la retraite prochainement, donc on avait bien anticipé le coup. Et en fait, au mois de juillet, on m'a appelé, on m'a dit qu'on avait un chien à me proposer et que je le connaissais déjà.
D'accord.
Je dis, ah, j'ai peut-être ma petite idée. Et on me dit, ah bon, tu penses à qui? Et j'ai dit, ah, possible que ce soit Japlou. Mm. On m'a confirmé que c'était bien lui, donc voilà, ça a matché assez rapidement.
Ouais, le feeling que t'avais eu en le croisant une première fois était resté intact.
C'est ça.
Et donc, Japlou, c'est vrai que quand on lit des choses sur ton histoire de sportif, sur ta carrière de sportif, on entend souvent parler de Japlou, parce que le nom aussi fait assez écho en fait à tout ce qui est de l'athlétisme, même si c'est dans un autre sport. L'origine de ce nom Japlou, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous le résumer en quelques mots?
C'est celui d'un cheval champion olympique en 88 et qui présente plusieurs points similaires avec mon parcours. En fait, c'était le cheval de Pierre Durand qui fait les Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles. En finale, Japlou fait un refus d'obstacle. Ils sont donc disqualifiés. Comme moi en 2016, où les premiers jeux sont une vraie catastrophe, parce que je me blesse à l'épaule en demi-finale du 100 mètres. Et donc, je finis ma course, mais je passe pas en finale pour un millième. Et je vais en demi-finale sur 400 mètres en étant strappé à l'épaule. J'ai pas accepté de ne pas courir. Donc, je gagne en plus ma demi-finale. Ils sont disqualifiés pour un pied sur l'intérieur de la ligne de mon cou. Donc, je me dis que les jeux suivants, si la logique est respectée, vu que Japlou est champion olympique en 88, peut-être qu'en 2021, si je suis digne de Japlou, il y aura peut-être une médaille d'or à Tokyo.
On te le souhaite de toute façon, mais c'est vrai que l'écho et le parallèle que peuvent faire certains grands sportifs entre le nom de Japlou et son arrivée dans ta vie ont pu faire sourire à plus d'une fois et on espère en tout cas que 2021 sera aussi réussi que 88 pour Japlou. Du coup, on dit qu'il est grand, tu nous as dit que Baltic était grand, toi tu es assez costaud aussi j'imagine et quand on te voit, il faut bien des grands chiens à tes côtés quand même puisqu'on est quand même dans le rôle du guidage, donc il faut pas te baisser, il faut bien pouvoir être guidé par ces chiens-là. Comment ça s'est passé les premiers temps avec Japlou? Du coup, il y a eu un passage de relais par rapport à Baltic. Tu les as présentés l'un à l'autre?
Je les ai présentés l'un à l'autre. Et en fait, ce qui est très déstabilisant, c'est de passer d'un chien avec qui on a énormément d'automatisme. Il n'y a plus besoin de parler à certains moments, qui connaît toutes nos habitudes, qui connaît le moindre petit mouvement qu'on va donner au harnais, qui va comprendre tout ça. Mm-hmm. Un chien, en fait, qui ne nous connaît pas et qui ne va pas comprendre tous ces codes-là et donc de commencer à reconstruire une autre relation, de reprendre des nouvelles habitudes, c'est très très déstabilisant et on sait que ça va pas être pareil. Je pense qu'on en prend vraiment conscience au moment où on le vit, on s'attend pas à reconstruire autant de choses. Mmh. Mais c'est très enrichissant parce que même s'il y a des moments où, entre guillemets, ça peut être frustrant, à d'autres, c'est hyper enrichissant parce que ben on s'aperçoit vraiment que chaque chien est différent, que chaque chien va avoir ses réactions. Mmh. Ça peut être très surprenant et très enrichissant aussi à la fois.
Oui, Karen nous disait en passant aussi de son premier à son deuxième chien qu'elle avait eu l'impression de revenir au CP. Cette impression de se dire, bah c'est bon, maintenant c'est le deuxième, je sais comment ça fonctionne, et en fait de retourner dans de la découverte parce que bah ils ne sont pas du tout tous pareils, même s'ils ont tous la même formation, chacun a son caractère. En tout cas, je vois que ça a été la même chose pour toi, mais je doute que vous avez quand même su construire quelque chose de très beau depuis 2016 avec Japlou, du coup.
Tout à fait.
Et qu'il te suit tout autant que le faisait Baltique.
Malheureusement, Baltique est décédé en 2017, donc il n'a pas eu une retraite très très longue d'après Motorax foudroyant.
D'accord.
Malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose. Ça a été très difficile pour moi parce que j'ai pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Mm-hmm. Ça a été un peu un traumatisme, ça a été très difficile à vivre.
Tu étais loin géographiquement à ce moment-là, c'est ça?
Moi, j'étais à l'INSEP, mes parents étaient du côté de Dreux, donc c'est pas forcément très loin. J'étais à une heure et demie. Le délai était trop court. En fait, le mardi soir, il jouait encore avec mon père. Et le mercredi matin, il semblait pas être trop dans son assiette. Il a pas voulu manger. Mm. C'est la seule fois de sa vie où il a pas voulu manger. Il a respecté son étiquette de golden gourmand. J'avais toujours dit de toute façon que le jour où Baltique ne voudrait pas manger, il y aurait un sérieux problème. Mmh. Ça l'a confirmé. En fait, il bougeait pas son tapis. Bah, mes parents m'ont appelé juste pour me dire bon, apparemment Baltique est pas très en forme. On va l'emmener chez le véto. On a rendez-vous tout à l'heure, mais enfin voilà, on t'appelle juste pour te prévenir. Et en fait, en une heure de temps, son état s'est dégradé. Juste après ce coup-ci, moi, je les avais rappelés en leur disant mais vous êtes sûr? Enfin, ça va aller, s'il faut, moi, j'arrive, je prends un train, j'arrive. Mm. Et on m'a dit, non, t'inquiète pas, enfin, il est un peu patraque, mais il y a rien, quoi. Mm. Et en fait, en une heure de temps, il se portait plus sur ses pattes. Mm. Les babines étaient toutes blanches. Donc, le sang circulait plus vraiment. Donc, ils sont arrivés chez le véto et ils m'ont dit, on te tient au courant. Et en fait, le véto, ils m'ont passé au téléphone. Mm. Il m'a dit, on va faire une radio, mais là, en train de partir.
D'accord.
Puis on voit dans ses yeux qu'il est plus trop là. La radio a révélé une tumeur sous-jacente au niveau du poumon qui a explosé. Mm. Le plus incroyable, c'est qu'il avait fait sa visite médicale un mois auparavant et qu'ils avaient rien vu. Et on peut pas dire que c'était une faute du véto, parce qu'ils avaient vraiment pris leur temps, ils avaient vraiment fait les choses comme il fallait, sauf que une tumeur sous-jacente...
C'était pas visible.
Si on fait pas une radio, on la voit pas, sauf que faut avoir une raison de faire une radio, il y avait rien d'alarmant en fait et le véto il m'a clairement dit au téléphone moi si vous voulez je peux vous le mettre sous perf et arriver dans une heure et demie peut-être qu'il sera encore là mais c'est même pas dit et ce qui est sûr c'est qu'il va souffrir donc après les années qu'on avait passées ensemble je me voyais pas en fait être égoïste et faire souffrir Baltique une heure et demie donc je lui ai dit faites ce que vous avez à faire soulagez comme vous pouvez et il y a un moment faut penser à lui aussi et il était hors de question qu'il souffre juste parce que je voulais être auprès de lui alors j'aurais aimé pouvoir lui parler une dernière fois etc sauf que c'était au prix qu'il souffre je voyais mal l'intérêt en fait donc voilà il est parti comme ça.
Ça a été assez rapide, assez brusque du coup.
Ouais, ça a été très très brutal parce que comme je te disais, la veille au soir, il était encore en train de jouer, donc c'était très très bizarre.
Toi, j'imagine que tu as pu rejoindre malgré tout tes parents après. Ça a été compliqué. Comment Japlou t'a aidé peut-être à passer ce cap?
Oui, parce qu'il y avait cette présence, mais c'est vrai que malgré tout, quand tu reviens chez tes parents, que d'habitude tu vois les deux qui, ces deux costauds, donc ils font un peu les fous, etc. Et quand t'arrives, il y a personne avec qui Japlou il peut faire le fou, donc il y a un vide, il y avait toujours un vide en fait, donc c'était assez compliqué à gérer.
Ok. Bon, et après cet événement assez brutal, du coup, vous avez essayé de reprendre, de continuer, du coup, sur votre lancée. Qu'est-ce que vous avez fait avec Japlou depuis 2018, du coup?
On construit un petit peu, on avance tranquillement. On a eu J'ai pris un chien qui était réformé.
D'accord.
Sur lequel j'avais bien accroché sur un statut en fait Facebook qu'avait mis l'école d'Angers toujours. Mm-hmm. C'était Newt qui était un chien guide prometteur mais qui avait un petit souci avec les autres animaux, c'est qu'il pensait que tous les animaux de la Terre étaient ses potes. Donc il voulait aller voir tout le monde. Ça a été un peu éliminatoire pour lui, mais sinon c'est un chien qui est extrêmement tourné vers l'humain. Bah ça a permis à Japou de retrouver un compagnon aussi, de ramener un petit peu parce que Newt est très jeune et très enfant dans sa tête aussi, donc ça ramène un petit grain de folie, on va dire. Mm-hmm. Voilà, c'est il y a eu cet épisode là, j'ai eu mon fils. Mm-hmm. Puis voilà ce qui se passe un petit peu.
La vie continue en tout cas. Tu as su t'entourer à nouveau de Newt et puis ton fils est arrivé avec ta compagne, j'imagine aussi, dans l'affaire. Il est pas arrivé tout seul. Je me demandais si dans toute cette histoire, au final, il y avait quelque chose que tu avais appris ou que tu avais découvert auprès des chiens guides d'aveugles qui t'avait surpris, auquel tu t'attendais pas forcément. Voilà, quelque chose qui est venu un peu comme un cadeau en plus de toute cette démarche que tu avais fait pour avoir un chien guide.
C'est la relation en fait que t'as avec le chien qui est juste magique quand t'arrives à vraiment tisser des liens où tu te comprends en un geste. Certes, c'est pas un humain, hein, mais il se passe beaucoup de choses en fait dans la relation avec un chien guide et je pense que tant qu'on le vit pas, on se rend pas compte. On a dans l'idée effectivement qu'on peut avoir une relation très forte avec un chien guide. Maintenant, tout ce qu'il y a au fil du temps qui se met en place, c'est assez impressionnant. Et même en fait, quand on est dans notre routine, on en a pas vraiment conscience. Malheureusement, c'est quand ils partent qu'on en prend conscience un petit peu de plein fouet. Du coup, voilà.
Justement, est-ce qu'il y a un moment où tu as été bluffé par un de tes chiens, ou par les deux d'ailleurs, est-ce qu'il y a plusieurs moments, et qui resteront un souvenir marquant pour toi, pour vraiment de bonnes années encore?
Ouais, il y a des moments où ils m'ont bluffé, il y a des petites anecdotes. Baltic m'en a fait deux, alors il y en a une qui est rigolote, un peu, l'autre un petit peu moins. Il y a une fois, je me fais agresser en fait du côté de Maison Alfort. Mm-hmm. J'étais avec un ami, au moment où mon ami pousse l'agresseur, moi je pars en courant avec Baltic. Mmh. Sur un trajet qu'on connaissait absolument pas.
D'accord.
Donc c'était courir, juste tracer sa route, et en fait Baltic a tout à fait compris avec un sang-froid incroyable, parce que c'est après que mon pote m'a dit, mais tu sais même pas par où t'es passé, et tu sais que Baltic il t'a fait passer sous un échafaudage, etc.
Ah ouais.
Etc. Et on s'est absolument rien pris, et ça a été une course effrénée pendant un petit moment. Je l'ai géré juste avec un sang-froid incroyable. Ça, c'était pour la partie un peu moins rigolote. Mm-hmm. L'autre, c'était en fait le jour où j'ai les clés de mon premier appart. Je vais chez mes parents pour fêter ça. On prend l'apéro et tout ça. Et puis, on pose les clés sur une table basse. Mm-hmm. Et en fait, on va manger. Et après le repas où je veux récupérer mes clés, il n'y a plus de clés.
Ah.
Je me dis, ah, on cherche. Et impossible de trouver la clé. Et en fait, moi, à un moment, pour rigoler, je dis, allez, Baltic, cherche. Allez, cherche la clé. En fait, on le voit foncer dans le jardin.
Ouais.
Il est allé enterrer les clés. C'est un signe comme quoi c'était un bon fils à papa et qu'il voulait rester chez mes parents, qu'il était tranquillement bien installé, que la maison et le jardin lui convenaient et qu'un appart, c'était pas trop à son goût, quoi.
Ouais, il avait fait son choix, lui.
Ouais, lui avait fait son choix, je pense. Et avec Japlou, ben, c'était plus vraiment un truc où il m'a surpris, où une fois j'étais malade et... je me dis, on va s'arrêter à la pharmacie. Enfin, je le dis, mais comme si je me parlais à moi-même. Mm-hmm. En plus, c'est pas comme si j'avais l'habitude de dire on va à la pharmacie, etc. En allant chez moi, on passe devant une pharmacie, mais je m'y arrêtais jamais.
Ouais.
Et en fait, à ce jour-là, il a décidé de s'y arrêter.
Genre, il avait compris que c'était une pharmacie, que tu avais dit, sans pour autant lui adresser la parole à lui précisément.
Ouais.
Qu'il fallait s'arrêter à la pharmacie.
Alors, j'ai dû avoir un truc de body language qui a fait qu'il a dû comprendre quelque chose, parce que je ne pense pas qu'il ait capté qu'en disant pharmacie, qu'il fallait s'arrêter à cet endroit-là, etc. Donc, mais c'est vrai que ça a été assez surprenant.
C'est bluffant des fois, hein, quand même, leur capacité se demande d'où ils les tiennent. Hein.
Non, c'est assez surprenant.
J'ai gardé quand même à la demande de mes auditeurs deux questions de fin que j'ai un peu twistées. Je voulais te demander quel était ton pire et ton meilleur moment que tu as vécu avec tes chiens guides, du coup.
Le pire, ben forcément le départ de Baltic en fait partie. Il y a un moment avec Baltic, c'était au début que je l'avais. Je rentre après une journée de cours et en fait je vais pour traverser. Mm-hmm. C'était bien là, bel et bien à moi de traverser. Sauf qu'il y a quelqu'un qui arrive à, une voiture qui arrive à toute allure et je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Du coup, je m'arrête et je commence à, et je me fais, enfin, la personne klaxonne et tout en arrivant, toute berzingue sur moi. Mm-hmm. Et je sens qu'elle va arriver sur nous. Je vais pas avoir le temps, en fait, ni de traverser, ni de revenir. Du coup, je mets mon genou en opposition, j'ai tiré le Baltic en arrière et la personne a pilé sur moi. Donc, j'ai eu extrêmement peur. Mm-hmm. Baltic était tremblant et enfin il s'est mis à aboyer parce que je pense qu'il s'est vu passer sous la voiture aussi. Mm-hmm. Il était un peu tétanisé et tout tremblant. Donc, ça c'était un truc pas très cool non plus. Bon après Japlou il s'est blessé plusieurs fois mais rien de grave à proprement dit.
Mm-hmm. Et pour finir sur une note plus positive, tes meilleurs moments
Les meilleurs, bah forcément, les moments de remise, c'est des moments un petit peu magiques aussi. Les meilleurs, en vrai, c'est quand tu les sens qui sont épanouis, qui sont heureux, tu sais, quand ils sautent. Tu le sens aussi l'humeur de ton chien. Mm-hmm. Si il y a eu Japlou et Newt quand ils ont accueilli mon fils, c'était un moment très particulier. Je leur avais ramené un vêtement de la maternité déjà pour qu'ils aient l'odeur et c'est vrai qu'ils ont été tout de suite attirés vers mon fils et donc même Newt qui est un petit peu pas turbulent mais tout de suite tu sentais qu'il faisait attention et donc c'était un peu attendrissant.
Du coup ils l'ont accueilli comme il se doit
Exactement.
Comme le petit homme qu'on ramène à la maison
Tout à fait.
Ils ont été hyper curieux, du coup.
Ouais, ça. Par contre, j'avais beaucoup de curiosité. Japlou, bah, tu sens que dès que le petit est là, il va se coucher à côté de lui, soit pour être bien placé, s'il fait tomber quelque chose à manger. non, ça. Sinon, si Japlou, bah, pour être digne de son nom, une fois, il a coursé un chat, puis bah, il a sauté par-dessus un mur de 2 mètres. Donc, pour un sauteur d'obstacles, c'est plutôt pas mal.
En effet.
Et puis là, ce jour-là, on s'est dit avec mon père, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait. En plus, il avait sauté dans le jardin d'un voisin qui vient 2 fois par an. Donc, on s'est dit, pour aller récupérer, ça va être une galère. Et en fait, il a ressauté dans l'autre sens. Donc, on n'a rien à faire. c'est moi que voilà.
En tout cas, on voit qu'il y a encore les meilleurs moments sont encore à vivre. Il y en a eu déjà et je pense que c'est pas fini.
Ouais, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Ça, c'est sûr.
Du coup, on a bien compris qu'il y avait pas mal d'échéances pour toi dans l'année à venir. Et puis, au final, bah, tu as toute cette équipe derrière toi. Newt, Baltic, qui nous regarde de là-haut, Japlou, le petit dôme. Où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre justement tes aventures? Est-ce que il y a un endroit en particulier sur les réseaux sociaux où tu es plus actif? Quel est ton conseil?
Facebook, Twitter, Instagram essentiellement. Je suis pas sur Snapchat.
Moi non plus.
J'ai un compte LinkedIn, mais il me sert pas à grand chose.
D'accord.
Donc voilà, Facebook, Twitter, Insta, c'est les principaux. Voilà. Après, il y a certaines informations qui sont reliées justement par l'école des dangers qui est mon partenaire aussi et qui m'accompagne dans ma carrière sportive. C'est fait un peu naturellement par rapport à l'histoire commune qu'on avait ensemble. Mm-hmm. Au-delà du projet sportif, il y a des projets comme je disais tout à l'heure, le One Man Show, mais un autre projet qui devrait voir le jour et assez rapidement, ça devrait être fin juin, où avec 5 associés, on a décidé de créer le premier jeu mobile et sur PC, grand public, accessible à tout type de handicap, dont aux déficients visuels, mal et non-voyants. Donc voilà, ça devrait arriver d'ici le début de l'été.
Quel teasing, dis donc. On a hâte en tout cas de voir tout ça. Donc on sent que l'été 2021 est ton été. Donc Instagram, Facebook et Twitter, donc c'est @timothée_adolphe, c'est bien ça, hein.
C'est ça, sur les 3, comme ça c'est pas compliqué.
Sur les 3, donc je remettrai en tout cas dans les notes de l'épisode toutes ces informations. Et donc il me reste à te souhaiter que du bon pour l'avenir, à te souhaiter de courir toujours plus vite. Et on l'a pas dit, mais ton petit surnom, c'est d'ailleurs le guépard blanc, si je me trompe pas.
Tout à fait.
Qui t'a donné ce surnom? C'est toi-même ou c'est devenu de par tes grands fans ou tes entraîneurs? Comment ça s'est passé?
Pas du tout, en fait, c'est mon entraîneur lors de ma première finale au championnat du monde en 2013, sur laquelle je me glisse un peu à la surprise générale. J'étais très fin, enfin je le suis toujours aujourd'hui, parce que je fais 1m84 pour 72 kilos, sauf qu'à l'époque je faisais 1m84 pour 60 kilos. J'étais très très fin et j'avais pas forcément la morphologie d'un sprinter. Du coup en fait mon coach, qui est d'origine burundaise, la veille au soir, juste après le dîner, au moment où j'allais monter en chambre pour ma récupération, est venu me voir, il m'a dit avec son accent chantant « Demain tu seras pas le lion, tu es pas assez costaud, tu seras le guépard blanc ». Et c'est quelque chose qui est resté et qu'on a un petit peu entretenu, d'autant plus que les médias, ils aimaient bien. Donc, c'est quelque chose qui est ancré un peu aujourd'hui.
C'est ancré et donc on te souhaite que ce soit côté team Guépard Blanc ou côté musique, voire humoriste, voire jeu accessible, tous ces projets les uns à côté des autres, que du meilleur pour la suite et que l'été 2021 t'apporte tout le succès que tu mérites en tout cas.
C'est gentil, merci beaucoup.
Bah, je t'en prie et au plaisir de te croiser avec Japlou. Newt et puis toute la petite famille dès qu'on pourra se revoir dans de bonnes conditions et que ton emploi du temps sera aussi compatible avec le mien, on va dire ça comme ça.
C'est gentil, merci. Encore désolé parce que je sais que ça n'a pas forcément été facile pour organiser ce podcast, je t'ai fait un petit peu galérer donc je suis à toutes mes excuses.
Mais il n'y a pas de problème, je m'adapte et puis c'est aussi le challenge d'arriver à vous avoir derrière ce micro, même à distance, puisque c'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne doit pas se donner rendez-vous. C'est vrai que pour l'interview, c'est mieux d'être au même moment, au même endroit, du moins chacun derrière son ordinateur. Je te remercie encore vraiment beaucoup, Timothée, pour ce temps que tu m'as accordé et pour tout ce témoignage sur ta vie auprès de Baltic, Japlou, Newt et puis sûrement d'autres à venir.
On espère. Pour le moment, on vit l'instant présent et voilà.
Et profitons en effet de ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt dès qu'on le pourra.
À bientôt, merci.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Timothée de m'avoir consacré du temps dans son emploi du temps de sportif de haut niveau et bonne chance pour les prochains JO. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article de cet épisode avec Timothée sur mon blog futurshengid.fr pour découvrir les photos du beau Baltique, mais aussi du croisement inédit qui fait de Japlou un merveilleux chien avec son copain Newt. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram @futurshengid ou via un avis sur Apple Podcast. C'est vraiment un plaisir de les découvrir. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes. Ça fait toujours chaud au cœur et je partage systématiquement. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles. Psst, toi aussi, tu as envie de lancer ton podcast ? C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de futurs chiens guides comme toi. Mais par où commencer ? Comment passer à l'action à partir de ton idée ? Comment enregistrer ? Et avec quel matériel ? Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout comme mon podcast ? Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amies podcasteuses Solène de Friendship et Florence d'Avant J'étais Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, via 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée. Et pour ne pas le faire en solitaire, leur accompagnement Podcastons Ensemble te permettra d'échanger chaque mois en visio avec d'autres podcasteurs comme toi pour t'entraider et te motiver. Et crois-moi, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici sans l'échange avec d'autres. J'ai d'ailleurs négocié un tarif d'amis rien que pour toi. Tu auras 5% d'office sur la formation avec mon code ESTELLE5 et surtout, jusqu'à dimanche, l'accompagnement collectif mensuel passe de 80 à 1 euro symbolique et ce, toujours pour un an. Toutes les infos sont disponibles sur formationpodcast.podia.com. J'ai hâte d'écouter ton premier épisode très bientôt.